Bon, puis pour finir, tu pourras leur raconter la fois au chalet.
OK, d'abord, l'année passée à mon chalet.
Non, ça serait mieux pas. De l'eau dans la cave, c'est ton rendez-vous décapant et hilarant tous les mercredis 22h à Chiz 94.3.
Le lundi soir, dès 18h30, c'est des Kiwis et des Nerds, l'émission de ceux qui n'ont pas de REER, mais qui font assurer leur compte Steam. Au menu, pas de parlure royale, mais une saine dose de comic book, science et techno, cinéma et jeux vidéo. Pour tous ceux qui pensent qu'on court plus vite avec un couteau dans les mains, ça se passe le lundi 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3, la radio officielle des Terres du Milieu.
De questions de savoir. C'est votre émission des étudiants de deuxième et de troisième cycle à l'Université Laval qui est présentée par l'Allier. C'est votre association des étudiants justement de deuxième et troisième cycle à l'Université. Louis-Philippe Tremblay qui est là avec vous. Je suis attaché aux communications dans cette merveilleuse association. Et je ne suis pas seul. On essaie d'avoir le plus de gens du comité exécutif autour de la table aujourd'hui. Donc, on sera. Il y aura quatre personnes, mis à part moi. Donc, on a tout de suite Catherine Asselin qui est VP au droit étudiant.
Oui, bonjour Louis-Philippe. Et je pense que c'est ma dernière émission de radio.
Oui, c'est votre dernier. Ici. Oui, c'est votre dernière émission de radio parce que c'est l'avant-dernière de l'année et la prochaine, ça sera en fait les nouveaux. Donc, le nouvel exécutif qui sera là. Donc, effectivement, c'est la dernière émission avec l'ancienne garde, comme on l'appelle maintenant.
Les vieux, là.
Il y a certains vieux qui restent quand même. Ibrahim Makone, qui est là aussi, qui est vice-président aux études et à la recherche.
Oui, mais là, tout de suite, Catherine, c'est la dernière émission en tant que VP de droit, mais c'est sûr que peut-être la prochaine équipe pourra t'inviter. Ça sera
un plaisir. Ah oui, peut-être, c'est ça.
Oui, c'est ça.
Avec ta grande expérience.
Oui, merci d'avoir passé le message, Brian. C'est ça que je voulais dire.
Alors, effectivement, donc Ibrahim, VP études et recherches, et on a passé une très belle année. Et là, on arrivait à la fin un peu fatigué, mais on tient le coup pour terminer l'année en beauté.
Une grosse finale. Ouais, également Guillaume Plante, qui est notre vice-président aux affaires externes. Lui, tu termines deux années.
Oui, avec une année avancée en plus sur le conseil d'administration de l'Allier. Donc, ça va vraiment me faire
trois ans près de l'Allier, quand même. Hein?
Un gros morceau, là, je vois. J'ai l'impression de quitter un membre de la famille, je pense.
Une petite dépression.
Oui, c'est ça.
Qu'on ne souhaite pas.
Je l'ai prévu dans le coin du juin. C'est ça.
En tout cas, tu viendras nous voir, puis on va t'aider. Tu le sais, puis on va en reparler justement pendant l'émission. La santé psychologique, c'est très important pour l'Allier, donc on va t'aider à passer au travers de ça. Et pendant qu'on faisait les présentations, il y a Kevin Villeneuve-Tremblay, le président de l'année 2018-2019, qui est là avec nous. Ça va bien?
Oui, désolé pour mon léger retard. Il y avait un bulldog français.
Oui, on l'a vu.
Ah, vous l'avez vu. Oh, il était tellement beau, là, j'ai pas pu m'empêcher.
Il était vraiment beau.
Bonjour. Oui. C'est une petite fille qui s'appelle Naya, qui a un an et demi.
Salutations, Naya. Tu nous enverras une photo sur Internet.
Le président est toujours à l'affût là, de ce qui se passe sur le campus.
Exact. C'est surtout quand ça concerne des chiens qui ont de la misère à respirer. C'est mes préférés.
Parce que notre président, il a un carlin qu'on appelle communément un pug qui s'appelle Zoé.
Qui nous écoute probablement en ce moment. Donc, bonjour Zoé.
Ouais, là, elle doit être toute énervée là, chez vous. Donc, c'est de ça qu'on parle, en fait. On parle de vos vies personnelles.
Oui, la partie humaine des officiers.
C'est ça notre émission aujourd'hui. On va essayer de faire un bilan de cette grosse année à l'Allier. Oui. J'ai l'impression que c'en était une grosse. C'est pas que les autres travaillent, les autres années, les gens travaillaient moins, mais il y a comme aussi beaucoup, je pense, de dossiers sans se clore, mais qui ont avancé cette année. Oui. Donc, on va pouvoir en faire faire un beau bout. Puis justement, parlant d'un dossier qui avait surtout été initié, en fait, dans l'année précédente et qui a finalement commencé notre année à nous, donc l'année 2018-2019, c'est l'augmentation du financement des frais de soutenance de thèse. Peut-être, Kevin ou Guillaume, en tout cas, vous étiez là en plus l'année précédente, donc vous pouvez peut-être nous en parler un peu.
Mais attends, j'ai participé un petit peu aussi aux négociations là, avec l'administration. C'était une entrée de mandat assez mouvementée à ce niveau-là. Puis, ce qui est important là, de rappeler dans ce dossier-là, c'est que c'est vraiment un dossier qui est venu de la base. Donc, c'est vraiment les membres qui sont venus nous voir, qui nous ont souligné cette injustice-là qui avait été mise en place par l'Université Laval, par la Faculté des études supérieures et postdoctorales, qui est, bon, pas nécessairement entièrement de leur faute, parce qu'on se souvient qu'en 2015, il y a eu des gros scoops au niveau du financement des universités. Donc, ils ont fait le choix, qui était très malheureux, en fait, de couper dans les frais de soutenance de thèse pour les examinateurs externes. Brièvement, qu'est-ce que ça consistait, en fait, ces coupes-là? C'est quand quelqu'un fait sa soutenance de thèse, il y a toujours un examinateur qui vient de l'extérieur. Donc, souvent, quelqu'un de l'Europe ou ça peut être d'ailleurs dans le monde.
Du Canada, des États-Unis.
Oui, exactement. Ouais. Puis, l'université rembourse toujours une partie des frais de déplacement de ces personnes-là. Or, les frais qui étaient remboursés par l'université étaient passés de 935 à 150. Ce qui faisait en sorte que finalement, c'était les doctorants ou les doctorantes qui devaient payer les déplacements de leur poche.
Mais c'est une baisse incroyable.
À moins de faire venir la personne de Lévis, il n'y avait pas moyen de rentrer dans les 150
950 à 150, je ne sais pas.
935.
Mais leur pourcentage, c'est énorme de réduction. Exactement.
Puis ce qui avait été mis en place pour compenser ça, c'était l'espèce de petit robot là, qu'on voit des fois lors des soutenances de thèse qui permet en fait d'avoir un examinateur externe qui est présent par Skype avec les petits robots qui se promènent dans la salle. Je sais qu'il y a plusieurs doctorants et doctorantes qui vont savoir de quoi je parle en ce moment. Mais on sait que il y a beaucoup de problèmes techniques qui peuvent arriver dans des cas comme ça. Puis quand les personnes font venir des examinateurs venant de l'externe, ben ça permet aussi à ces personnes-là de faire du réseautage, de venir faire des présentations. Donc, ça crée vraiment une effervescence au niveau scientifique d'avoir ces personnes-là qui viennent ici.
Tout en étant un événement très valorisant aussi pour le chercheur et la chercheuse.
Exactement. Faut souligner. Exactement. Donc, on a eu une belle surprise dès le 1er mai, puisque la FSP nous annonçait qu'elle désirait rattraper la moyenne canadienne avec un déremboursement de 1350 par soutenance de thèse. Donc, ça a été vraiment un gros gain. On a travaillé fort conjointement avec... C'est surtout un dossier qui était venu de la part d'Artefact, donc l'association de sciences historiques. Il ne faut pas dire histoire, c'est sciences historiques.
Oh, oui.
Je me suis déjà fait dire.
Je l'aurais dit comme ça, une chance que tu es là.
C'est sciences historiques, oui. Puis aussi une personne qui était sur le site de l'ALI, Marie-Lise Racine, qui avait vraiment pris ce dossier-là à cœur, qui avait monté une pétition que plusieurs personnes avaient signé pour démontrer à l'université, finalement, qu'on voulait un refinancement. Puis, on voulait pas que ça vienne de la poche des étudiants. On voulait pas que ce soit un FIO. Ben on voulait pas mettre en place de fonds philanthropiques. On croyait vraiment que c'était un service qui devait venir, qui devait être financé, finalement, par l'Université Laval. Donc, c'est un gros gain, déjà, au mois de mai, qui... bon, ça a tombé durant notre entrée de mandat, mais c'était vraiment l'exécutif, là, l'année dernière. Donc, Pierre Barrassirois, qui était président, et Ariane Keck, VP études et recherche, qui avait travaillé vraiment fort là, sur ce dossier-là aussi, avec Marie-Lise, évidemment.
Donc, ça commençait bien l'année. On avait un dossier qui, non seulement se concluait, mais avec une très, très belle là, finalité à ce moment-là. Surtout que ça a été un montant beaucoup plus élevé, là, d'à peu près 450 500 de plus que ce qu'on s'attendait. Ça permettait aussi, parallèlement à l'université, de maintenant se classer comme une des meilleures universités à ce niveau-là, au niveau canadien, en étant à l'échelle canadienne. Et donc, en étant au Québec, une des universités qui offre le plus de compensation pour les examinateurs externes. Donc, c'est un gain, je pense, là, pour les étudiants, mais aussi pour l'université, pour son attractivité.
Clairement. Puis ensuite, ben, ça montre, c'est un bel exemple aussi qui démontre que quand comme tu dis, la base, ou du moins quand un étudiant, ça peut être un déclic d'un étudiant, une étudiante ou un petit groupe d'étudiants qui se mobilisent autour d'une question. Puis ben là, ça prend de l'ampleur, puis boule de neige, et là, on a un gain qui dépasse finalement les attentes. Et le PU, un gros dossier de l'année. Hein? Oh oui. Est-ce qu'on a eu un gros automne? Je dirais oui.
Je dirais
oui.
Il y avait des élections parallèles.
Un gros mois de novembre. Oui, il y a eu les élections, c'est vrai, là, je les ai passés, j'ai passé rapidement. En tout cas, on n'est pas obligé d'y aller chronologiquement non plus, mais évidemment, il y a eu les élections où on a fait quand même un bon travail, je pense, à l'Allier, avec toutes nos revendications. Puis ça nous a permis aussi également de se poser des questions sur certains enjeux qui sont provinciaux, mais qui ne touchent pas nécessairement très directement l'éducation supérieure, notamment la réforme de mode de scrutin ou des questions comme ça. Donc, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre site web, si jamais, notre cahier de revendications. Cahier de revendications automnales que vous pourrez trouver sur le site web, mais est arrivé le LPU ensuite en novembre. Qui veut se lancer là, sur la mobilisation autour du LPU? Moi, je trouve, Catherine, là, t'as travaillé fort dans la mobilisation.
Oui, effectivement. Je pense que le LPU, je pense que tous les plusieurs étudiantes qui sont au courant du dossier, mais je pense qu'à l'interne, au sein de l'Allier, au conseil exécutif, c'est vraiment un enjeu que chaque exécutant, on a participé, justement, quand tu parles de la mobilisation. Puis
c'est transversal.
Exactement. Peu importe nos postes, nos mandats, tout le monde s'est impliqué à l'Allier, au sein de l'exécutif, et aussi où il y a plusieurs membres aussi qui sont venus avec nous mobiliser. Oui. Mm-hmm. Pour moi, ça a été vraiment un moment important de mon mandat de l'année. Mm-hmm. Justement, là, c'est cette mobilisation-là, faire des tracks aux arrêts d'autobus et tout.
Aller rencontrer les membres, c'était beaucoup ça.
Oui, exactement. D'aller informer, parce qu'il y a beaucoup de questions, évidemment, reliées à ça, peu importe notre camp et tout. Je pense que le LPU, c'est vraiment l'exemple de mobilisation de l'année. Puis de projet commun, parce que oui, c'est sûr que notre exécutif, bon, il y a eu les référendums, on a mis ça en place, mais je pense qu'on n'a pas beaucoup de... notre mérite n'est pas non plus... si énorme que ça, parce que c'est un enjeu qu'on aborde depuis
10 ans.
Ah oui, non, c'est 10 ans. Même que 13 à 14
aussi.
Ans que le
dossier est très long. Même qu'on en parle.
C'est certain qu'on a mis beaucoup de temps là-dessus, là, je ne dénigre pas, mais c'est un autre exemple aussi d'un dossier là, qui suit les exécutifs depuis des années. Donc là-dessus, je pense que c'est ça, comme tu dis, l'aspect mobilisation qui est vraiment important du LPU.
Oui, puis je pense que le LPU, il porte l'âme, en fait, de tous ces gens-là qui en a eu des réunions par rapport à ça. Ça s'appelait même pas les PU à une certaine époque. Puis là, on parle évidemment, nous, à l'ALI, mais à la CADEL, même chose. Aussi. Les exécutifs se sont succédés sur cet enjeu-là. Puis je pense que c'est tout ça. C'est toute l'âme de ces centaines de personnes-là, finalement, qui se retrouvent dans la réussite qu'on a eue cette année. D'ailleurs, je vous rappelle les résultats de notre référendum, en tout cas, du moins, à l'ALI. Un taux de participation de 25 % qui est élevé pour l'Allier, évidemment parce qu'on a beaucoup de membres qui sont pas sur le campus et tout ça.
D'ailleurs, on te remercie beaucoup la stratégie de Catherine et de Nicolas là, au niveau du droit étudiant et des affaires internes de nous amener à sortir dans les centres de recherche et de sortir du campus.
Clairement.
Ça a vraiment été, là, je pense, l'élément qui a le plus contribué
à cette participation-là.
À cette ouais,
clairement. Donc, puis on sait aussi qu'il y a des gens qui font de leur recherche, par exemple, partout dans le monde. Donc, évidemment, le PU, bon, ça les concernait moins, évidemment. Donc, 25 % de participation et un taux de 72 % en faveur du oui. Donc, je pense que c'est une très grande victoire. C'est, à la CADEL, le taux de participation un petit peu plus élevé, je pense, 40 % puis eux, ils ont eu un 55-56 avec oui. Et une très belle victoire également, eux aussi. Un autre bassin.
Un petit peu plus serré, mais avec une présence plus forte. Donc, on considère que l'option clairement. Oui est clairement dominante.
Oui, puis à 55, cas, là on n'est pas dans des zones trop grises. Donc, et ce sera implanté, ça, autre part du travail qui a continué. Parce que oui, il y a eu le vote, mais après, là, beaucoup de travail avec les cinq partenaires, en fait. Là, les deux sociétés de transport, évidemment, de Lévis, le RTC ici de la capitale, l'Allier, la CADEL et l'université. Donc, gros travail pour que ça ait lieu à l'automne 2019.
Et une belle annonce qu'on a eue justement pour confirmer le tout, c'était il y a deux semaines.
Quelques semaines,
c'est ça. Donc, vous pouvez toujours aller voir là, sur le site de l'Allier ou de la CADEL là, pour relire les articles à cet effet.
Clairement. Et il y a le ulaval.ca/LPU. Donc, allez là, il y a toute l'information. Et ce matin, on a envoyé une infolettre d'ailleurs aux membres de l'Allier et il y a le lien vers le site web. Donc, rendez-vous là si vous voulez des informations par rapport au LPU. Prochain. Ah, bien ça, c'est encore dans notre mois de novembre de fou. L'enquête panquébécoise sur la santé psychologique. que je sais pas qui veut se lancer un peu sur la genèse.
Ouais, ben ça tombe pas mal dans mes dossiers. Là, je vois que mes collègues me regardent pas mal.
Oui, c'est ça,
oui, ben l'enquête santé psy, c'était une initiative là, au départ de l'Union étudiante du Québec, donc l'UEQ. Elle a été amenée l'an passé là, à nos instances. Elle visait surtout à reprendre une première étude qui avait été effectuée par la FECUM, qui est l'Association de l'Université de Montréal, et qui avait permis de mettre en lumière plusieurs problématiques, des taux d'idéation suicidaire extrêmement élevés, des taux de pensée dépressive aussi très élevés. Donc là, il y a vraiment un portrait très surprenant. Ben, pas si surprenant, mais disons qu'il venait vraiment là, jeter des lumières plus claires là, sur la situation à Montréal. Et donc, l'Union étudiante du Québec, les associations membres et non-membres, donc observatrices également autour de la table, ont créé un comité de travail spécifique justement pour cet enjeu-là et on a décidé de l'amener à toutes les universités, cette enquête-là. Donc, c'était un gros travail de coordination pour engager les universités à collaborer avec nous pour avoir notamment accès aux banques de courriels, profils sociodémographiques des étudiants pour justement avoir des données là, significatives dans l'étude. Et là, ben, on a pu lancer à l'automne là, l'enquête. Ça s'est très bien passé, je pense. Là. Moi, j'ai fait plusieurs des représentations là, avec de mes collègues, notamment Catherine aussi. Pour de vrai, c'était un peu le dossier bonbon cette année. Le LPU a été un exemple de mobilisation étudiante en termes de mobilisation pour le référendum puis justement la démocratie étudiante. Mais l'enquête, elle a été, je pense, un exemple de sensibilisation et de prise de conscience là, énorme de la part des étudiants. On a eu 24% de taux de réponse là, sur le campus au niveau des cycles supérieurs, ce qui est encore une fois là, 23?
Oui, c'est 23. En 23, ouais, c'est ça.
Pour tout le monde. Donc, la cadence
pour toute l'université. Oui, pardon, c'est pour toute l'université.
Je suis désolé, pendant une seconde, je faisais une.
Oui, on avait les chiffres par université au niveau de la participation.
On va pouvoir voir la ventilation plus tard.
Et justement, l'université Laval s'est démarquée parmi les autres universités. Il y avait une université qui était plus grande que nous.
Exact. Donc, Bishop a eu des meilleurs résultats.
Une petite université.
Que nous, qui est
donc,
un plus petit campus. Aussi,
un plus petit campus, c'était plus facile. Mais dans les plus grandes universités, finalement, on a quand même très bien performé. Puis ça, c'est encore. Je pense que le mois de novembre, que je me rappelle de vous, là, les exercices, vous aviez des t-shirts, soit le LPU, soit le Santé Psy, vous aviez des tracts, puis là, bon, OK, on va là, OK. Des fois, je pense que vous ne saviez même plus qu'est-ce que vous alliez parler, finalement, dans les deux.
C'est l'importance,
on parlait des deux.
Je pense que l'enquête était super pertinente, puis on l'a vu sur le terrain, les étudiants étaient nous en parlaient, puis étaient comme, oui, tu sais, moi aussi, ça m'arrive de vivre ça. Bref, ça a conscientisé les gens. Puis selon moi, l'enquête, ce n'est que le début. Tu sais, je pense que le santé psychologique, on a fait l'enquête, OK, on a peut-être crevé la psy, on en discute, mais je pense que ça va être un enjeu aussi qui va suivre le prochain exécutif.
Oh, oui,
c'est vraiment important.
Surtout qu'on aura les résultats de l'enquête autour du mois d'août. Donc, à partir de ces résultats, c'est sûr que l'exécutif va poursuivre les recommandations auprès de l'administration et autres, voir dans quelle mesure on pourrait donc aider les étudiants, à résoudre les questions de santé psychologique.
Exact. Clairement. Puis, aussi, ce que je voulais rajouter là-dessus, c'est que souvent, moi, j'ai entendu quelques fois des étudiants, en tout cas, c'était vos dires, en fait, là, mais que, moi, j'ai rempli, puis je me suis rendu compte que finalement, j'allais pas si bien que ça. Oui. Fait que, en remplissant l'enquête soi-même, puis il y avait. Puis l'enquête était bien faite, il y avait des ressources aussi qui étaient données à la fin, tout ça. Exactement. Mais en remplissant l'enquête soi-même, là, on se rendait compte, finalement, en me posant la question, puis en prenant 2 secondes, parce que pour remplir ça, c'était pas très long, c'était 5 minutes, tu sais. Mais en prenant 5 minutes, en me posant ces questions-là, bien là, je me rends compte que finalement, je vais bien, mais il y a peut-être des petites choses que je pourrais un petit peu plus travailler, tu sais, pour que
et
ça.
Et puis, ce qui est intéressant aussi, Philippe, l'enquête, c'est que l'enquête terminait par les services de l'université. Donc, du coup, ceux qui ne connaissaient pas les services d'aide aux universités, ça leur permettait d'avoir, en tout cas, de se faire aider, qui consulter en cas de difficulté.
Ben oui, on a presque le quart du campus qui a vu finalement que ces services-là, ce qui n'est pas à négliger. Clairement pas. Continuons un peu avec toi, Ibrahim, un peu ce qui s'est passé. Ben, il y a 2 choses au niveau des recherches. Que je voulais parler avec toi, c'est moins un enjeu, mais plutôt dans des services qu'on offre, en fait. Là. Mm-hmm. Notamment, ici, on rédigeait, qu'on a bonifié cette année, là, ici, on rédigeait. Peut-être expliquer qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas.
Ben, merci.
Alors, pour les nouveaux qui écoutent. Là.
Oui, c'est ça pour les nouveaux. Alors, ici, on rédigeait, c'est en fait une lettre d'action organisée par l'Allié en collaboration avec la FESP et maintenant avec la bibliothèque. Il faut dire que l'année passée, on a eu 2 séances test. Alors, cette année, on l'a lancée en automne. On avait des séances 1 fois par mois, tous les derniers samedis du mois, dans une seule salle. Et étant donné qu'il y avait beaucoup d'intérêt, à partir de janvier, on s'est trouvé une autre salle à la bibliothèque. Donc maintenant, il y a 100 étudiants qui participent mensuellement à la retraite de rédaction. Mm-hmm. Alors c'est vraiment un succès. Lorsqu'on ouvre les inscriptions, en 2 ou 3 jours, on n'a plus de place. Et vraiment, ça va très bien. Et c'est quelque chose vraiment qu'on compte continuer, qu'on va encourager les prochains exécutifs à continuer et l'intégrer dans les services de l'allié. Mm-hmm. C'est ce sentiment-là de gain, d'avancement, en fait, au niveau de la rédaction et autres. Et les étudiants sortent de là très satisfaits. En une journée, de pouvoir rédiger une stylesque une page, c'est vraiment satisfaisant.
Oui. Puis autre activité également là, qu'on a fait, c'est la journée de la recherche aussi, qui a été un beau succès, je pense. Oui, ça s'est bien passé.
Merci. Alors, la journée de la recherche, effectivement, c'était un test, c'est pour cette année. Alors, le but étant de promouvoir les centres de recherche et de former les étudiants, les jeunes chercheurs sur les enjeux en lien avec la recherche. Alors, c'était une première édition. On a eu 15 centres de recherche qui ont exposé. On a eu de belles conférences. Alors, c'est quelque chose qu'on pourrait recommander également pour l'année prochaine, et vu l'intérêt de la journée.
Il y a eu beaucoup d'intérêt. On va vouloir augmenter la participation, évidemment, dans la prochaine année, donc voir un peu la formule. Mais je pense qu'on a quand même quelque chose qui est intéressant pour les étudiants. Plan d'encadrement pour les étudiants au cycle supérieur, qui je lance la balle.
Je pense que Kevin ou moi, on pourra y aller. Alors, le plan d'encadrement, il faut dire que cette année, c'est une recommandation de notre mémoire sur l'encadrement de l'année dernière. Oui. Alors, on recommandait que le plan d'encadrement soit obligatoire au niveau de l'université parce qu'on s'est rendu compte que les étudiants qui avaient un plan d'encadrement finissaient plutôt leurs études. Mm-hmm. Alors, il y a 4-5 facultés déjà qui l'utilisent. Et là, on a eu un gain cette année, c'est que l'université a décidé de mettre en place un comité pour l'arrimage du plan de collaboration. Alors, ce comité sera constitué de l'administration, d'un représentant des enseignants et des étudiants. Alors, l'objectif visé par l'université, c'est de rendre le plan de collaboration obligatoire dès l'automne 2019.
Oui.
Alors, c'est très
un gros
idée.
Mais c'est important, tu sais. Moi, je tiens à dire, là, pour l'avoir vu là, aux affaires externes, là, et particulièrement en fin de semaine à ThinkGrad, qui est un think tank là, des enjeux de cycle supérieur au niveau canadien, c'est un enjeu que toutes les assos de cycle supérieur se posent comme question. Et c'est un enjeu qui était très discuté. Puis, je n'étais vraiment pas gêné d'arriver justement autour de la table avec un peu le plan qu'on avait à cet effet-là, puis les stratégies qu'on a mis en place pour rendre obligatoire, au final, là, de manière unilatérale, ces encadrements-là. On n'est pas les seuls à se poser la question, on n'est pas les seuls à se rendre compte que ça va permettre de régler plusieurs problématiques. Mm-hmm. Ça élimine beaucoup d'indicateurs qui amènent à des problèmes comme l'étalement des temps d'études, mais aussi des fois les conflits qui peuvent y avoir entre les personnes. Parce qu'on ne veut pas, quand on a une direction d'études, on est quand même très dépendante de cette direction-là d'études pour plusieurs aspects de notre futur universitaire. Alors, ces ententes-là vont, je pense, j'ose le croire, tant aider les étudiants et les étudiantes que les gens qui donnent l'encadrement, eux autres aussi, c'est une entente qui va les aider, les protéger dans plusieurs situations.
Puis ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est la différence entre les différentes facultés. Quand on a fait notre forum des associations l'année dernière sur le plan d'encadrement, on a eu vraiment un clash entre des facultés qu'on appelle plus de sciences
humaines et sociales.
Sciences naturelles. Sciences sociales.
Oui, c'est ça.
Étant moi-même sciences sociales, en tout cas, je peux. C'est ça. Puis, dans le fond, est-ce qu'on s'est rendu compte?
En plus, les sciences, on parle sciences et génie, par exemple, et tout ça, d'un côté.
Oui, versus sciences humaines, sciences sociales, philosophie aussi. Puis, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les gens aux tables qui provenaient de médecine et sciences et génie, pour eux, c'était normal d'en avoir un, puis c'était pas mal obligatoire déjà dans certains départements et certaines facultés, alors que de l'autre côté du campus, les gens savaient même pas c'était quoi un plan d'encadrement.
Ouais, fait ça, qu'on, c'est
on a eu quand même un bon travail là, de sensibilisation à faire pour finalement argumenter un peu avec les étudiants pour leur faire comprendre de un, c'était quoi, puis de deux, pourquoi c'était utile, puis pourquoi il fallait l'implanter même pour ces gens-là aussi. Ouais. C'est sûr que quand on regarde du côté des sciences et génie et médecine, ça représente presque un contrat de travail parce que ces gens-là sont pas rémunérés, mais ils sont compensés pour leurs études. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des bourses. Tandis que de notre côté, du campus, c'est quelque chose qui est beaucoup moins fréquent. Donc, on va être subventionné plus par les organismes subventionnaires fédéraux et provinciaux, mais très peu par notre direction de recherche. Donc, j'ai l'impression que les gens du côté S du campus voit moins la pertinence il voit moins la pertinence d'avoir le plan d'encadrement, alors que c'est pas juste un contrat de travail, un plan d'encadrement, c'est un échéancier,
c'est pas juste gérer le budget,
c'est un calendrier,
donc
c'est ça.
Ça représente beaucoup de choses aussi, puis ça peut être utile aussi pour les gens de l'Est.
Catherine, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus aussi?
Oui, ben justement là, Kevin mentionnait la comparaison entre peut-être des facultés qui pour eux, ça va-tu avoir un peu d'encadrement? Ouais. Puis d'ailleurs, il y a plusieurs départements, plusieurs facultés qui s'est rendu obligatoire maintenant. Moi, je le vois même dans mes statistiques cette année d'étudiants qui sont venus me voir concernant les problèmes d'encadrement, parce qu'il y en a chaque année, évidemment. Ben oui. Puis je remarque justement les facultés qui ont un plan d'encadrement. Il n'y a pas de problème d'encadrement. T'sais, j'ai zéro consultation ou une consultation. Donc, je pense que c'est ça. Pour faire du pouce à ce qu'Ivan disait, il y a vraiment un lien où sont des étudiants qui viennent nous voir. T'sais.
Puis Ibrahim, oui.
Ben merci. Ben, ce que je voulais ajouter à cela, il faut dire que en tout cas, l'ensemble des facultés de l'université, ben, que ce soit celles qui l'utilisent ou pas, celles qui ne l'utilisent pas, plus ou moins, sont favorables au plan de collaboration. Il y a même une étude de la FESP qui montre que 85% en tout cas, des directeurs de programme sont favorables à avoir un plan de collaboration. Maintenant, il reste la manière. Donc, c'est pourquoi on a un comité pour pouvoir s'arranger de sorte que, en tout cas, les facultés puissent avoir gain. En fait, que le plan puisse profiter également aux enseignants comme aux étudiants. Ce qui nous satisfait d'ailleurs, le fait que ça soit bien reçu par toutes les facultés.
Il nous reste encore quelques minutes. Je ne sais pas s'il y avait des choses que vous vouliez ajouter. Mais sinon, je voulais peut-être vous lancer sur... Tu sais, on fait des activités sociales aussi tout au long de l'année. Je ne sais pas, votre activité préférée peut-être de l'année. On peut peut-être faire un petit tour, tour de table. On fait des activités. Je sais déjà celle de Kevin. Je pense que je l'ai déjà deviné. On verra. On verra qu'est-ce que c'est. Mais il y en a une là, qui nous avait demandé là,
pâté
fortement.
Noël, pâté de Noël.
C'est là.
Le pâté de Noël. Ouais, mais ça, je pense aussi, cette année, on a... ben, il y en avait aussi l'année passée, mais les pop quiz.
Oui,
oui
ça, je pense que j'ai pas été à tous les pop quiz qu'il y a eu, mais du moins, les trois qu'on a fait.
On en a fait trois.
Il y a vraiment un gros succès, donc voilà.
Ça, Kevin, il veut dire qu'il a gagné la dernière fois, je pense.
Ouais.
c'est ça que tu l'as dit.
C'est fait voler son punch.
Mais bon.
Non, mais on va te féliciter, je pense.
Ben oui, bravo quand
c'est
même.
C'est le dernier pop quiz qui était sur l'alcool.
Les dessous de l'alcool.
Poser une question pour votre président.
Ah, c'est ça.
Les gens pensent que j'ai triché parce que j'étais en équipe avec Jérôme Dufoily, que tout le monde connaît évidemment sur le campus. Mais j'ai quand même contribué à quelques réponses. Donc, ça serait mentir de dire que j'ai triché.
Puis, ben c'est ça. Puis, il y en avait eu un sur le sport. Puis, un pendant les élections provinciales. Donc, en lien avec les élections. Puis ça, je peux déjà vous dire qu'à l'automne prochain, il va y en avoir un sur les élections fédérales. Ouais, clairement. Ça, c'est sûr. Sinon, d'autres activités sociales ou qu'on
moi,
a
je
fait?
Sais pas si ça se classe comme une activité, vas-y, mais l'achat public, là, les conférences d'achat public, c'est ma foi, probablement là. Meilleure activité qu'on peut avoir pour les gens. Là. Ouais, on a eu une petite activité ludique aussi. Là. Je tiens à rappeler qu'on avait réussi à avoir M. Louis T sur le campus,
ben
là,
oui,
pour les gens
ça.
Qui s'en rappellent. Ouais.
C'est là que j'avais. Donc, on a fait un show d'humour, clairement, en début d'année, en novembre. Une opportunité qui nous a été proposée par eux. Là. C'est eux qui nous, ont approché parce qu'ils faisaient du rodage avec Louis T dans les universités. Et. En tout cas, on va voir qu'est-ce qui va se planer, mais on est encore en discussion avec eux pour peut-être en faire un autre à l'automne. Mais là, bon, ça, c'est dans les peut-être.
Puis, moi, je pourrais parler de l'activité qui a été la moins appréciée du comité exécutif, le carnaval de la vie. C'était une très belle activité, bien organisée, bonne idée, mais il faisait moins 45.
On respectait la règle du carnaval à Québec.
Il faisait froid. Personne.
Moins 35.
Je pense que j'étais le seul qui était bien habillé pour cette activité-là, puis tout le monde avait froid. Il faisait pour vrai moins 30. Il y avait du vent, mais on avait quand même du soleil et une chance qu'il faisait soleil parce que ça n'avait pas de sens.
Donc, merci aux courageux et courageuses qui ont vu.
Les gens de l'administration.
On en a passé à ça, quand même.
Quand même, puis les gens, ben, on ne vous dénoncera pas, mais les personnes qui s'en allaient un cours à 12h30 et qui ont pris un petit café comique.
Oui, un petit café comique.
On ne vous dénoncera pas à vos professeurs, ça c'est ça. Sinon, d'autres activités que j'ai beaucoup appréciées, ça a été les manifestations.
Ah ben oui,
beaucoup de mobilisation cette année.
Surtout ce printemps, hein, parce qu'on a même fait un article, un édito d'ailleurs, dans Impact Campus, notre dernier édito que vous pouvez aller voir là-dessus, là, sur toutes nos mobilisations.
Donc, je ne sais pas si c'est un record à l'Allier ou du moins probablement un record depuis 2012, mais on a pris part à 5 manifestations cette année. Donc, contre le troisième lien, au mois de novembre. Oui. Ensuite, on a eu le 15 mars, évidemment, la planète s'invite à l'université. Mm-hmm. On a eu les stagiaires avec nos collègues du CUTE, les stagiaires avec nos collègues de l'UEC et de la FEC aussi.
Oui.
Puis, il me manque les FIDEP aussi, donc
les internes en psychologie.
C'était un beau printemps. On a pris l'air en masse.
Clairement. Clairement. Mm-hmm. Puis, je pense que c'est. Il y a des membres qui étaient heureux, je pense, oui. de ça, qui étaient comme OK, c'est appuyer, fun, ouais. on fait des pancartes.
Avec notre gros drapeau de pirate de l'Allier.
Oui. Notre
drapeau
noir sur blanc.
On est facile à voir. Donc, si vous nous croisez dans une manifestation, spotter le gros drapeau noir, on est très facile
à voir. Si vous avez écouté Infoman, là, vous nous avez vu passer là, dans la smash.
Ouais. Ça, c'est la consécration passée à Infoman. Et en terminant, ben, je vais vous dire, toutes ces activités-là, tous ces résumés-là, d'ailleurs, ça se retrouve sur notre site web allier.ulaval.ca, Facebook également, on partage tout ça. Vous avez votre infolette de l'Allier que vous recevez aussi chaque semaine. D'ailleurs, l'infolette, ça se termine. La semaine prochaine, ce sera la dernière de l'année. On le fait pendant les sessions d'hiver et d'automne. Et n'oubliez pas de nous suivre pendant l'été. On n'arrête pas là, de faire des choses et tout ça. Et je veux rappeler aussi la chaire publique. Donc, on